BFM TV, Julie jusqu'à minuit, Julie Hamet.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble et en direct jusqu'à minuit autour de la table pour m'accompagner ce soir. Florence Roisse, bonsoir Florence.
Bonsoir Julie.
Perico Legas, bonsoir Perico. Sébastien Wild, bonsoir Sébastien.
Bonsoir grande prêtresse de l'info.
Ça m'avait manqué.
Oui, je me doute.
Bonsoir Christophe Barbier.
Cri-cri jusqu'à minuit.
Ah ouais, c'est pas mal aussi.
Ça marche.
C'est pas mal aussi. Et bonsoir à vous, Ludovic Pingano. Vous êtes ancien pompier, expert en gestion de crise. Si vous êtes avec nous, c'est parce qu'on va parler tout de suite de ce drame aux États-Unis, ce pont, ce grand pont de Baltimore qui s'est effondré. On en parle tout de suite. Et c'est donc l'image de la journée, l'effondrement spectaculaire de ce pont à Baltimore sur la côte est des États-Unis, un pont autoroutier percuté par un porte-conteneur. Ça, ce sont des images en direct, mais ça s'est passé la nuit dernière à 1h30 du matin, heure locale. Au moins 6 personnes sont toujours portées disparues. Je voulais qu'on regarde cette séquence des personnes qui ont pu filmer la scène en direct. Regardez.
Yo! What the fuck? What the fuck? What the fuck? No shot! No shot!
Le choc, évidemment, des Américains sur place. On voit le bateau sur ces images qui heurte donc un pilier du pont et qui fait tomber le bateau, qui fait tomber, pardon, dans l'eau une grande partie de la structure de ce pont. On va tout de suite aller retrouver Benoît Balet, notre correspondant à Washington. Benoît, on imagine l'émotion sur place.
Oui, évidemment, on a entendu celle effectivement des Américains dans la séquence que vous venez de diffuser, mais ici, on est vraiment, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais là-bas, ce que je vous montre, c'est le bout du pont qu'il reste, c'est-à-dire que si on avance sur cette route, eh bien, c'est le vide. On est vraiment au début de la route qui menait à ce pont qui s'est effondré, et juste derrière moi, il y a une zone où les différents politiques, les responsables locaux, jusqu'au secrétaire d'État américain, Américains au transport ont défilé tout au long de la journée dans différentes conférences de presse pour tous dire leur tristesse, leur chagrin, leur pensée envers les victimes, et puis parler évidemment des recherches qui continuent et puis de la suite, parce que c'est évidemment choquant, un pont de cette taille, hein, 2,5 kilomètres de long, ce Francis Scott Key Bridge de Baltimore, qui est évidemment connu de tous les Américains de la métropole de Washington, de Baltimore et jusqu'à New York, parce que c'est un pont qui est emprunté chaque jour par plusieurs dizaines de milliers de personnes, de véhicules sur la côte est. Donc des images très choquantes. Alors, il s'agit vraisemblablement, du point de vue de l'enquête, d'un accident. Hein, ce qu'on nous a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, c'est que il fallait écarter les pistes d'un acte intentionnel, écarter les pistes terroristes. On se dirige vers un accident, une avarie mécanique, une avarie électrique qui aurait empêché le navire ce matin aux alentours d'une heure et demie du matin de garder sa trajectoire et qui l'aurait donc fait percuter un pilier. Les recherches, vous l'avez dit, toujours 6 personnes sous les eaux et des plongeurs qui s'activent toujours pour retrouver la trace de ces disparus.
Merci Benoît Balet. Alors qu'au moins 6 personnes sont donc toujours portées disparues. Ulysse Gosset nous a rejoint également, éditorialiste politique internationale pour BFM TV. Ulysse, vous avez vécu longtemps, vous, aux États-Unis, ce pont. J'imagine que vous l'avez déjà emprunté.
Oui, de très nombreuses fois, parce que c'est le
principal. Il est très fréquenté.
C'est le couloir autoroutier. C'est un pont autoroutier qui relie en fait Washington et tout le sud des États-Unis au nord à New York, Boston. Donc, il y a des millions de personnes chaque année, et c'est vraiment un cordon ombilical qui permet à toute cette région de vivre. Et c'est pas simplement du transit. Alors, il y a la circulation automobile, bien sûr, mais il y a aussi et surtout sur le plan économique, les mouvements des cargos qui amènent des conteneurs du monde entier. L'an dernier, par exemple, en 2023, il y a eu une importation de 750 000 voitures et camions qui sont arrivés à Baltimore. C'est vraiment vital, ce port de Baltimore, pour toute cette région. Et donc, effectivement, quand ce pont a collapsé, s'est effondré en pleine nuit, heureusement d'ailleurs que c'était la nuit, parce que à l'heure de pointe,
il y aurait pu y avoir encore plus de victimes.
Imaginez ces voitures qui tombent dans l'eau, parce que évidemment, c'était le grand danger.
Petit rectificatif, le bilan a évolué. En tout cas, on parle d'au moins 5 personnes disparues, puisqu'un corps a été repêché à l'heure où on parle. 2 personnes sont rescapées. Voilà le bilan à l'heure qu'il est.
Vous savez, les grands ponts aux États-Unis, c'est comme les cathédrales d'acier. Hein, c'est-à-dire, il y a le Bay Bridge de San Francisco, il y a le Brooklyn Bridge à New York, et il y a ce pont-là qui était vraiment essentiel. D'ailleurs, le gouverneur du Maryland a décrété l'état d'urgence. Vous savez, ils ont pris des moyens absolument considérables pour savoir ce qui s'était passé. Ils ont même utilisé des drones sous-marins pour aller sous l'eau et voir qu'est-ce qui s'est passé au moment où la pile a été touchée et qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce qu'on peut faire. On a vu le président des États-Unis qui est immédiatement intervenu parlant de catastrophe nationale et qui s'est engagé à payer les réparations. Il faut savoir que Joe Biden est arrivé au pouvoir à la Maison-Blanche en disant « Je vais reconstruire les infrastructures américaines, les routes, les ponts qui sont dans un état déplorable. » Alors là, curieusement, c'est pas un pont qui était en mauvaise état. Il est assez jeune, si j'ose dire. Il date de 1977, mais c'est un ouvrage considérable. Hein, 2,6 km de long, c'est l'un des plus longs au monde. Et Biden, donc, a dit « On va aider tout de suite à le reconstruire. » Et c'est vital, effectivement, comme je le disais, pour la population locale et pour l'ensemble de la région.
Forcément, on se pose la question comment ce cargo a pu, en percutant un des piliers de ce pont, le faire s'effondrer quasiment dans son intégralité. On est avec Paul Touret, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Comment c'est possible donc que le pont s'effondre après qu'un bateau le percute ?
Alors effectivement, on peut voir la structure du pont qui est assez particulière. On connaît bien les ports européens. La France a des grands estuaires avec des grands ponts qui sont avec des piliers béton et beaucoup plus haut. La circulation maritime est plus élevée. Par exemple, à Saint-Nazaire, on est quasiment à 70 mètres, donc on a des ponts plus élevés. Là, on est quand même sur un pont qui doit faire peut-être une cinquantaine de mètres de hauteur sur des structures plus légères, effectivement, des piliers légers. Évidemment, je suis plutôt un spécialiste du transport maritime que des ponts, mais on voit bien que la structure est assez particulière et sans doute, effectivement, que le navire en arrivant à une vitesse limitée, sans doute une douzaine de kilomètres heure, donc c'est pas une force très importante, mais comme la masse est importante, elle, le choc a effectivement été assez radical sur un pilier évidemment fragilisant et on voit l'effondrement assez spectaculaire de l'ensemble de la partie centrale du pont.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer alors que ce bateau, on parle visiblement, et Joe Biden l'a rappelé, a priori, la piste intentionnelle est écartée, on est sur un accident. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on perde le contrôle d'un cargo pareil ?
Effectivement, il y a une perte de propulsion. D'ailleurs, on voit très bien sur certaines images qu'il y a le bateau s'éteint littéralement, c'est-à-dire que on voit une perte d'électricité rallumée, une perte d'électricité à nouveau quelques mètres avant, une centaine de mètres peut-être avant que il y ait la collision. Donc la perte de propulsion, apparemment assez. Quand on lit les témoignages et la presse, on voit que c'est peut-être quelques centaines ou 500 mètres avant le pont qu'il y a eu les problèmes. Les pilotes ont signalé. Il y a un message d'urgence. Apparemment, les chaînes ont été aussi avec l'ancre pour essayer de ralentir le navire, mais ça n'a pas suffi. Et le décalage au dernier moment sur le pilier, à la rigueur, ça aurait été dans la partie centrale. Peut-être que le bateau aurait juste effondré une partie ou touché, mais là, en attaquant le pilier, finalement, l'accident maritime devient finalement un accident d'ingénierie civile et des pertes humaines quand même si ce ne sont que 5 personnes qui sont quand même importantes.
5 personnes qui sont toujours portées disparues, un corps qui a été repêché et 2 personnes qui sont rescapées, 2 rescapées pour l'instant.
On a appris que l'an dernier, au Chili, dans un port chilien, le cargo avait été inspecté et qu'ils avaient déjà décelé des problèmes sur la gouvernance hydraulique. Et malgré tout, le cargo a continué à voyager, si j'ose dire. Donc, c'était pas vraiment quelque chose d'inattendu pour ceux qui étaient à bord et pour les inspecteurs. Et c'est sans doute là la cause, c'est cette panne hydraulique qui fait finalement que le capitaine à bord n'a plus le contrôle du navire et que progressivement, il en perd le contrôle. Il se projette sur cette pile du pont, provoquant l'effondrement de ce qu'on appelle, c'est un pont en treillis métallique. Hein, c'est-à-dire que, en fait, ça paraît assez fragile, c'est solide quand ça tient, mais s'il y a un choc brutal, eh bien tout le pont peut se désagréger.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'en reste pas moins que c'est un cargo, même s'il avait visiblement quelques fragilités qui avaient été soulevées l'année dernière. C'était un habitué des trajets entre l'Asie et les États-Unis. Là, il partait pour une traversée de 27 jours jusqu'au port de Colombo, au Sri Lanka. Une dernière question, Paul Touret, est-ce que ce genre de drame pourrait arriver aussi chez nous, en Europe ?
Alors effectivement, on a quand même ces pertes de propulsion qui sont d'ailleurs beaucoup d'accidents. Hein, ce sont des pertes de propulsion, y compris en mer, qui fait par exemple qu'on est mal positionné par rapport à la houle ou par rapport aux vagues. Ça arrive aussi dans les ports. Il faut pas oublier, dans le port de Gênes, il y a quelques années, un bateau était rentré dans la tour de contrôle avec plusieurs morts. Il y a quelques jours, on a vu en Turquie aussi une manœuvre portuaire. Voilà, de temps en temps, les bateaux perte de la propulsion ou des problèmes de guidage, on va dire, c'est des accidents. Alors, c'est à petite vitesse, mais comme ce sont des navires énormes, s'ils tombent dans des infrastructures, s'ils tapent dans des infrastructures, des grues portuaires ou tout ce qu'il peut y avoir autour, effectivement, les chocs sont importants. On n'est pas dans la grande catastrophe maritime, mais les conséquences matérielles et humaines peuvent être effectivement importantes.
Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. On marque une courte pause. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. On continue à parler de ce drame aux États-Unis, un porte-conteneur de 300 mètres de long qui a percuté un pilier du pont de Baltimore, une collision filmée qui a provoqué la chute du pont et des quelques voitures qui se trouvaient au-dessus avec les passagers. Comment expliquer cet accident, ou ce qui semble être en tout cas un accident? C'est la piste privilégiée à l'heure où on parle. Guillaume Lavial avec Bertrand Séguier.
L'armature du pont Francis Scott Key, immergée dans la baie de Baltimore suite au choc avec un porte-conteneur. Le Dali, navire singapourien de 300 mètres de long pour 48 mètres de large, a fait rompre la structure en quelques instants. C'est à 1h28 heure locale que l'accident est survenu. Le bateau de transport rentre en collision avec l'un des pieds de l'ouvrage, le point faible du pont. La structure de 2,6 km de long s'effondre, tel un château de cartes.
Yo! What the fuck? What the fuck? What the fuck? No shot! No shot!
Chaque jour, plus de 30 000 usagers empruntent ce pont datant de 1977. Quelques minutes avant la collision, l'équipage du Dali avait contacté les autorités maritimes pour les avertir d'une perte de propulsion, permettant à des ouvriers de voirie de stopper les véhicules souhaitant emprunter le pont.
Je dois bien dire que je suis reconnaissant envers ces gens qui ont réagi à l'alerte lorsqu'ils ont reçu ce signal SOS. Le fait qu'ils stoppent les voitures pour les empêcher d'emprunter le pont. Ces gens sont des héros. Ils ont sauvé des vies cette nuit.
Au moment du choc, certains de ces agents étaient encore présents sur l'ouvrage.
Il y avait 8 personnes. 6 sont encore en train d'être recherchées. Une a été transportée à l'hôpital et une autre personne n'a pas eu besoin d'hospitalisation.
Donc il y a 6 disparus ?
Oui.
Avec une chute de plus de 50 mètres de haut et une température de l'eau inférieure à 7 degrés, les chances de retrouver ces 6 personnes en vie s'amenuisent d'heure en heure. Selon les autorités, le pont ne présentait aucun problème structurel. Mais le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis annonce dépêcher une équipe pour enquêter sur les circonstances de l'effondrement.
Il s'agit du premier effondrement majeur dû à un impact de bateau depuis 40 ou 50 ans. Il est certain qu'il sera nécessaire d'avoir une enquête significative. La reconstruction prendra du temps et il est probable qu'il faille bâtir de nouvelles fondations et une nouvelle structure pour remplacer le pont Francis Scott Key.
Les membres d'équipage du Dali sont eux tous sains et saufs. Joe Biden a lui réagi et a annoncé débloquer des moyens pour relancer l'activité portuaire paralysée par la chute du pont.
We're going to get it up and running again as soon as possible. 15,000 jobs depend on that port. And we're going to do everything we can to protect those jobs and help those workers.
Le port de Baltimore, un point économique clé. Chaque année, 80 milliards de dollars de marchandises y transitent.
Je rebondis là-dessus, Christophe Barbier. Intéressant de voir qu'on est quoi, 24 heures à peine après le drame, et déjà Joe Biden parle de l'impact économique. Il faut à tout prix reconstruire ce pont parce que 15 000 jobs en dépendent.
On est en campagne présidentielle. L'un des rares atouts du président sortant, c'est ses résultats économiques, et donc tout faire pour qu'il n'y ait pas ce genre de boulet dans une zone qui est très, très sensible. Les États-Unis ont montré qu'ils étaient capables de relever ce genre de défi. Donc dégager la zone des restes du pont détruit, puis reconstruire rapidement au moins un pont provisoire pour qu'on puisse traverser, et plus tard un pont suffisant pour qu'on puisse passer dessous. Ça, ils le feront sans tarder. C'est pas si étonnant que ça, vous savez, cette destruction. On peut spéculer sur la fragilité du pont, mais il faut se rappeler que le 28 mars 1942, c'est comme ça que les Britanniques ont détruit la principale forme, c'est-à-dire le principal sarcophage de béton qui servait aux Allemands pour entretenir à Saint-Nazaire leur flotte sous-marine et leurs principaux bâtiments de flotte navale. Et donc, ils ont lancé contre du béton un bateau chargé à bloc et chargé aussi d'explosifs qui a permis de faire sauter ce béton, d'écraser ce béton et de détruire durablement une infrastructure portuaire.
Ludovic Pingano, peu de chances de survie. On parle là, c'est une information de CNN qui annonce qu'il y a un corps qui a été repêché. Deux personnes ont survécu, sont rescapées. Il en reste cinq autres, a priori dans l'eau. On parle d'une eau inférieure à 7 degrés. Oui, les chances de survie sont minimes.
Les chances de survie sont extrêmement faibles, effectivement. D'abord, il y a la chute. Hein. Ça vient d'être dit dans le reportage. Plus de 50 mètres, ça fait maintenant bientôt 24 heures qu'ils sont dans l'eau. Une eau à 7 degrés. Par bonheur, certains étaient encore dans l'eau, il y a la fatigue qui va venir s'ajouter à tout ce que ces pauvres gens qui, malheureusement, sont restés sur le pont ont subi. Effectivement, le chance de les retrouver en vie, ça menuise de minute en minute.
On imagine à quel point le dispositif est important, comment on opère pour essayer de retrouver des corps, des voitures dans cette zone qui est quand même très large.
Mais j'imagine qu'il y a eu tout d'abord beaucoup, beaucoup de moyens de reconnaissance mis en œuvre. Alors c'est d'abord des moyens de reconnaissance sur l'eau, hein, des bateaux avec des projecteurs qui ont circulé partout sur la zone, ensuite des hélicoptères et des drones. C'était la nuit quand l'accident est arrivé, donc la visibilité est extrêmement faible, c'est extrêmement difficile. Alors on imagine effectivement beaucoup de moyens aériens, mais dans ce genre d'opération, autant sur l'eau on arrive à coordonner l'action des différents bateaux, autant dans l'air, ce qu'on appelle la coordination 3D est extrêmement difficile pour éviter justement les accidents, les collisions entre les hélicoptères et les drones qui pourraient survoler et circuler sur la surface. Donc ça nécessite... Alors d'abord, il faut mobiliser tous les moyens, mais les mobiliser, ça nécessite aussi en plus une grande coordination. Donc c'est effectivement une opération particulièrement complexe à organiser.
Merci beaucoup. Merci à tous. On marque une très courte pause.